Merci vous qui êtes présents, vous qui nous regardez par internet. Aujourd'hui nous sommes le 2 avril et nous fêtons le dimanche des Rameaux. Une semaine avant Pâques, qui est la fête chrétienne la plus importante du christianisme. Elle nous rappelle non seulement la mort de Jésus-Christ, mais aussi et surtout sa résurrection et sa victoire totale sur le péché et sur la mort. Et ça vaut la peine de se réjouir, mais pour cela, il faut peut-être encore attendre une semaine. Je vous propose de prier. Nous fêtons ce matin, Seigneur, ce Dieu qui fait son entrée à Jérusalem et qui a trouvé parmi la foule des hommes et des femmes qui le louaient, qui l'acclamaient comme étant le libérateur. Nous aussi ce matin, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, proclamer que tu es notre libérateur, que tu es notre roi. Et nous voulons vraiment ouvrir notre cœur, nos oreilles physiques et spirituelles à l'accent de ton Esprit Saint pour que nous puissions aussi manifester cette joie, celle qu'avaient les disciples, celle qu'avait la foule. Nous disons, Seigneur, oui, tu es le grand ressuscité, tu es le grand roi. Et nous t'acclamons ce matin dans notre lieu de culte. Amen. Les trois premiers versets du psaume 126 nous donnent un bon indicateur de ce que sera ce culte. Je lis dans la Bible, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, alors notre bouche riait de joie, et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. » Nous sommes dans la joie. Quand on réalise tout ce que Dieu a fait pour nous depuis que l'on est né jusqu'à présent, eh bien, on peut être que dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors dites-le à votre voisin, à votre voisine, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Ce matin, je suis dans la joie. Quelle joie! On ne peut plus vous arrêter. La joie, ce n'est pas simplement une émotion, mais c'est aussi un choix que nous faisons et qui exprime notre reconnaissance et notre bonheur. Elle peut s'exprimer entre deux amis, dans un couple, dans l'église et dans notre relation avec Dieu. Et dans ce dimanche des Rameaux, d'après ce que je vois, nous ne sommes pas venus avec un âne. Nous ne sommes pas non plus venus avec des rameaux, des branches, d'arbres. Et je ne vois pas non plus beaucoup de vêtements qui sont étendus par terre. Donc on pourrait se dire, mais est-ce qu'on n'a pas oublié l'essentiel pour ce dimanche des rameaux? Eh bien non. Nous sommes tous venus avec quelque chose que nous avons, notre joie. Et je vous propose de pouvoir l'exprimer dans ce culte qui sera un petit peu spécial. Maurizio et moi... qui va diriger ce temps de louange, on a décidé qu'on allait faire un culte un peu particulier où la prédication sera entrecoupée de temps de louange ou que la louange sera entrecoupée de temps de prédication, comme vous le voulez, hein, selon votre bon plaisir. Mais l'essentiel est que nous puissions dire et montrer au Seigneur que oui, nous sommes dans la joie. Il n'y aurait donc pas un gros moment de culte ou un grand moment de prédication, mais on vous propose plutôt une lasagne avec des couches les unes au-dessus des autres et je vous promets que nous allons nous régaler. Alors regardez dans votre poche ou dans votre cœur et sortez votre joie, ça va commencer. Alors je vous propose de fêter ensemble ce dimanche des Rameaux. Et comme je l'ai dit, c'est un événement important dans le déroulement de cette dernière semaine de la vie de Jésus qui entre à Jérusalem et toute une foule est là pour l'acclamer. Alors j'aimerais déjà dire que cet événement, cette entrée de Jésus à Jérusalem, elle est en relation directe avec un autre épisode de la vie de Jésus qui est la résurrection de Lazare. Nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et qui se déroule une semaine avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors vous connaissez certainement cette histoire. Marthe et Marie, deux sœurs, demandent à Jésus de revenir à Béthanie pour guérir leur frère malade. Jésus tarde à venir et Lazare meurt. Et comme c'est la coutume, il est enseveli le jour même de sa mort. Et quand Jésus arrive enfin, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort. Ses sœurs sont consternées. Si Jésus avait été là à temps, leur frère serait toujours vivant. Elles étaient tellement sûres que Jésus allait le guérir. Mais maintenant c'est trop tard. Jésus leur assure pourtant que rien n'est perdu et qu'avec lui, il n'est jamais trop tard. Oui, avec Jésus, il n'est jamais trop tard et que ces femmes doivent continuer à avoir la foi en lui. Au chapitre 11 de cet évangile de Jean, nous lisons la suite de cette histoire à partir du verset 38 qui dit ceci. Jésus se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelques versets après avoir dit cela, il s'écria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs venus chez Marie qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Waouh ! Les gens n'avaient jamais vu ça. Oui, guérir un malade, ça, ils l'avaient déjà vu. Mais voir un mort ressuscité, ça, ils l'avaient jamais vu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Jésus est non seulement plus fort que la maladie, mais ils le voient de leurs yeux. Jésus est plus fort que la mort. Et les gens croient en Jésus en le voyant ressusciter Lazare. Mais en croyant en lui, ils ne voient pas simplement un maître, un rabbin ou un prophète. Ils voient le Messie attendu, le libérateur dont ils ont tellement attendu et espéré la venue. C'est le lion de Juda, le tout-puissant roi. Et il est là devant eux, celui qui va les délivrer de l'ennemi romain qui les a envahis. C'est lui, c'est ce Jésus qui leur donne enfin de l'espérance et un avenir. Imaginez leur joie. Alors, je ne sais pas si on peut imaginer. Alors, imaginez quelqu'un que vous aimez. Ça va, c'est pas trop difficile. Et que cette personne décède. Imaginez la tristesse, imaginez la douleur. Mais imaginez aussi que, on prie pour cette personne, quelle que soit sa maladie, quelle que soit la raison de sa mort, et que cette personne, elle ressuscite. Parmi nous. Imaginez, c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus avec ces hommes et ces femmes. Elles ressuscitent par la puissance de Dieu. Alors on a envie de sauter de joie, de partager cette bonne nouvelle. Il y a une personne qui est ressuscitée, c'est incroyable. On a envie de chanter, on a envie de manifester notre joie ensemble de tout notre cœur. Et puis, c'est impressionnant, n'est-ce pas? J'ai déjà prié pour une personne qui était décédée, mais ça c'était pas non plus dans les plans de Dieu que cette personne ressuscite, mais j'y ai cru. Et j'y crois encore. Et je crois encore qu'aujourd'hui notre Dieu peut ressusciter des morts. Et je crois aussi que nous devons aussi le croire. Alors, dans cette joie collective, peut-être que leur imagination débordante a peut-être un petit peu dépassé ces Juifs. Imaginez qu'un libérateur vient les libérer du joug romain, et eux, ils pensaient peut-être que Jésus allait ressusciter les morts qui étaient tombés au combat, et puis finalement avoir une armée invincible. Tous les morts, hop, Jésus les ressuscite. C'est pas une armée de zombies, mais... Ce serait extraordinaire, mais ça va trop loin. Ce qui m'impressionne, moi, dans cette histoire, le plus dans cette résurrection, c'est cette petite remarque de Marthe. Ça fait 4 jours que Lazare est mort et sa chair est déjà en décomposition. L'odeur, imaginez l'odeur. Il sent déjà. C'est plus possible. À rigueur, une personne qui a une main malade ou qui a la fièvre, c'est possible. Mais quand tout le corps est en train de se décomposer, où est-ce qu'on peut imaginer voir le miracle de Dieu ? Il y a quelques jours, je rentrais de France et j'ai vu une citation sur un mur à la gare de Genève. C'est en anglais, je vais le traduire. La flèche qui a quitté l'arc ne peut plus revenir en arrière. Je trouvais ça très chouette. Je me suis dit, je vais l'intégrer dans ma prédication, parce que dans cette dimension de Lazare, finalement, au niveau humain, on ne peut plus revenir en arrière. Il est mort, il est en train de se décomposer. Il n'y a plus d'espérance pour Lazare. C'est fini. Et je me dis, voilà, c'est Lazare, mais dans ma vie à moi, dans ma souffrance, dans mes angoisses, dans mes questions qui restent sans réponse, qui peut me donner la victoire ? Qui peut changer mon deuil en allégresse, ma tristesse en cri de joie ? C'est la même question que Marthe et Marie se sont posées. Qui peut ramener leur frère à la vie ? Seul Jésus le peut. Qui peut changer le cours de ta destinée ? Seul Jésus le peut. Qui peut redonner vie à une situation qui est morte ? Seul Jésus le peut. Quelle joie de savoir ces choses, mais aussi de les vivre d'une façon personnelle et d'être dans cette joie que Dieu nous propose. Vous savez, ce n'est pas un péché que d'être dans la joie. Non, non. C'est notre quotidien, en fait, ça devrait être notre quotidien. Puis aujourd'hui, Dieu, dans ce jour des rameaux, aimerait ranimer notre joie, parfois un peu vacillante. Cette joie du miracle, de voir des hommes et des femmes guéris, ressuscités, qui se tournent vers Dieu. Est-ce que vous l'avez encore ? Alors je vous propose d'arrêter de prêcher, et puis de vivre cette deuxième couche de louange où on aura l'occasion de pouvoir manifester à Dieu notre joie, notre reconnaissance, notre allégresse par des chants. Si vous voulez vous lever, si vous voulez manifester en faisant quelques pas de côté, pas trop en demander, ou bien si vous voulez prier pour dire à Jésus haute voix, « Tu es ma joie et je suis rempli de toi, Jésus. » Vous êtes d'accord ? Jésus désire nous renouveler ce matin dans cette joie. Et notre prière à l'équipe de louanges et à moi, c'est que cette joie soit quelque chose qui va nous contaminer, qui va nous envahir, qui va nous dépasser, qui va nous faire tellement de bien qu'on voudra dire, mais on en veut encore plus et vous en aurez encore plus. Amen. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète, dite à la fille de Sion, « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânon et l'ânesse et mirent sur eux leurs vêtements et leur firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin, nous dit Matthieu 21, les 8 premiers versets. C'est donc une entrée triomphante de Jésus à Jérusalem et remplie de symboles qu'il faut savoir déchiffrer. D'abord, il était assis sur une ânon, sur une ânesse. Le texte de Matthieu reprend en partie la prophétie de Zacharie 9:9 que Jésus est en train d'accomplir. Et voici cette prophétie en entier, ce verset en entier. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et Matthieu insiste sur la douceur et l'humilité de Jésus, à venir non comme un conquérant sur un cheval d'une façon militaire, mais sur un humble animal que certains décrivent comme un animal qui était justement employé pour l'intronisation d'un roi. Les habits déposés devant son passage étaient aussi le symbole comme un tapis rouge de l'époque qui était réservé aux rois qui entraient dans un lieu, dans un village ou dans une ville. Enfin, les branches de palmiers, les rameaux arrachés aux arbres, étaient également le symbole de l'honneur réservé aux rois victorieux qui entraient dans sa ville. Et c'est pour ça que l'on dit que c'est le dimanche des rameaux. Donc, trois symboles qui, pour nous, ne peuvent pas dire forcément grand-chose, mais retrouvons dans cette dimension juive le sens réel. Il recevait Jésus comme un roi. Effectivement, Jésus entre comme un véritable roi à Jérusalem, non pas pour libérer le peuple de l'emprise des Romains, mais pour nous libérer de l'emprise du péché. Et j'aimerais juste vous poser cette question. Est-ce que vous vous souvenez le jour où Jésus est entré dans votre vie ? Et qu'il est devenu votre roi. Est-ce que vous vous souvenez de la joie que vous avez eue lorsque Jésus l'a changé, cette vie que vous aviez ? Et notre prière, c'est que vous l'ayez toujours, cette joie. Et c'est justement cette joie que le prophète Zacharie évoquait pour les Juifs qui acclamaient ce Jésus comme roi le premier dimanche des rameaux. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. » C'est vraiment quelque chose où Zacharie encourageait le peuple à manifester sa joie plus que de coutume. On dirait aujourd'hui un peuple en liesse, ça veut dire une joie collective qui augmente et qui augmente. Et comment se manifestait cette joie ? Eh bien, d'abord, avant de parler de ça, dire que l'arrivée de Jésus à Jérusalem, elle n'est pas du tout passée inaperçue. Parce que les Juifs qui acclamaient Jésus était convaincu qu'il était vraiment le Messie. En effet, l'évangile de Jean nous rapporte que la foule qui était présente à l'entrée de Jérusalem pour accueillir Jésus, c'était la même foule qui était là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et cette foule a été encore ajoutée par une autre foule qui était venue voir Lazare alors qu'ils savaient qu'il était mort et ils voulaient voir de leurs yeux une personne ressuscitée. Et ces gens, quand ils ont vu ce Lazare vivant, ils ont commencé à croire en Jésus. Et on trouve ce petit épisode dans l'évangile de Jean, et j'aimerais lire les versets 17 et 18 du chapitre 12. La foule qui était avec Jésus quand il appela Lazare au tombeau en le ressuscitant d'entre les morts, lui rendait témoignage, et c'est justement ce rendait témoignage à l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et ce miracle, c'est donc, vous l'avez bien compris, la résurrection de Lazare. Alors pour une deuxième fois, je vous pose la question, mais comment est-ce qu'ils ont manifesté leur joie ? Eh bien, ils ont proclamé des vérités sur Jésus et sur l'événement qu'ils étaient en train de vivre, qui était absolument extraordinaire. Et si je continue la lecture que j'ai commencée sur ce passage où Jésus entre à Jérusalem, au verset 9, 10 et 11, il est dit ceci, « Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la vie fut en émoi. Et cette vie en émoi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot émoi ? J'ai cherché dans le dictionnaire, dans le mot hébreu, et puis c'est le même mot en émoi que le mot qu'on utilise quand la terre elle est secouée quand il y a un tremblement de terre. Ils n'avaient plus leurs assises. Ils étaient tout chamboulés. Et on disait, mais qui est celui-ci? Et les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ça, c'est ce que Matthieu rapporte de cet épisode. Mais cet épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem a été décrit par les trois autres évangélistes. Et Marc dira des paroles similaires, quoique qui se complètent. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Et Luc dira, fera dire de la foule qui voit Jésus entrer à Jérusalem, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et enfin Jean, hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alors j'essaie de composter tout ça dans une seule liste, puis ça vous donne ceci, où on voit ces différentes acclamations. Hosanna, béni soit celui qui arrive, qui est le Messie. Et si vous regardez le dernier point, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts, on est assez près du message des anges lors de la naissance de Jésus. Il est clair que la foule acclame Jésus comme le Messie. Et ils le disent, c'est le Messie attendu, le fils de David, le libérateur qui est promis. Il est proclamé comme étant le roi d'Israël. Jésus est béni comme l'envoyé du Seigneur, comme le règne de David. Mais c'est le mot « hosanna » qui mérite ce matin notre attention. Si les quatre évangiles se complètent dans les titres qu'ils donnent à Jésus, ils sont par contre unanimes pour dire que la foule criait « hosanna ». Et dans l'Ancien Testament, on ne trouve qu'une seule fois le mot « hosanna ». Et en fait, dans nos traductions françaises, il n'est même pas cité. Il est pas cité directement, mais il est présent dans le psaume 118. Et le verset 25 nous dit ceci. « Éternel, accorde le salut. » Et c'est, si on peut voir la slide suivante. « Éternel, donne le succès. » Et ce « accorde le salut » qui est décrit aussi, qui vient de l'hébreu, alors je ne suis pas très bon en hébreu, mais ça donne comme, quelque chose comme ça, Hosanna, qui était repris par le texte grec en Hosanna, et qui veut dire sauve, accorde le salut, sauve s'il te plaît. Et c'est un cri de détresse à Dieu. Comme quand on vous pousse dans l'eau, alors que vous ne savez pas nager, Et vous sortez juste la tête de l'eau en criant « au secours, à l'aide, aidez-moi, hosanna, hosanna ». En fait, on ne le dit pas comme ça, on fait « au secours, sauvez-moi ». On est en train de se noyer et on est en train de mourir. Hosanna, sauve Seigneur, sauve-moi. Et dans le psaume 118, il est intéressant de relever que quelques versets avant ce verset 25, le verset 22, il nous a parlé de Jésus d'une façon prophétique et vous allez reconnaître ces paroles qui disent ceci, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. » Il s'agit bien d'un cri poussé par le peuple envers le Messie qui demande de le sauver et on sait que cette pierre d'angle, c'est Jésus. Mais vous savez, le sens du mot « hosanna » a changé au fil du temps. Et dans le même psaume, au verset 25, le verset qui suit, il est dit ceci, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et les Juifs ont commencé à relier ces deux versets ensemble. C'est d'ailleurs ce que les Juifs vont crier, vont proclamer quand Jésus va arriver, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, non plus comme un cri d'appel au secours, mais comme un cri d'espoir et de joie, comme une acclamation faite au Messie Et ce mot « Hosanna » ne veut plus dire pour les Juifs, c'était l'évolution dans le temps, « Sauve-moi » ou « Au secours », mais « Le salut est arrivé ». Si auparavant on criait « Hosanna » parce qu'on se noyait, depuis lors on crie « Hosanna » quand on voit le maître nageur venir nous sauver. Et c'est vraiment ceci, c'est « Hosanna, le secours est là ». Il y a une vie pour moi. Il y a la possibilité de continuer à espérer. Je ne vais pas mourir noyé. Le Sauveur, il est là. Et je me réjouis. Alors, il ne va pas dire « je me réjouis ». Il va toujours dire « je me réjouis » parce qu'il est toujours en train de se noyer jusqu'au moment où cette main vient le tirer de son désespoir. Hosanna est un mot étrange. Il a changé au fil des années. Ce n'est plus au secours, mais c'est « Alléluia ». Le secours est là. Et c'est dans cette perspective que les disciples et la foule disaient « Hosanna ». Le débordement d'un cœur rempli d'espoir, cette joie de voir le salut incarné en Jésus arriver au milieu d'eux, ils ne pouvaient plus se contenir. « Hosanna », disait-il. « Hosanna au fils de David ». Ça veut dire, oui, le fils de David, il est là. Il est à côté de nous et il vient nous délivrer. Et aujourd'hui, on pourrait dire « Hourra pour le roi » ou « Le salut appartient au roi », c'est des choses ou bien « Alléluia, youpi », enfin, c'est fantastique. Vous avez plein de mots dans votre cœur qui pourraient sortir spontanément pour manifester votre joie. Et le psaume 118 était considéré vraiment comme annonçant la venue du Messie qui vient au nom du Seigneur. Et donc, pour bien comprendre qu'on va passer d'une dimension prophétique à une dimension qui va être vécue, quand les Juifs vont dire « Hosanna » à Jésus, ils vont en fait dire « Gloire à Jésus, le Messie ». Le Messie, c'est le mot hébreu qui a donné en grec et en français aussi le mot « Christ ». C'est le Christ. Vive Jésus, notre libérateur. Jésus est là et il peut nous sauver. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez quand Jésus est entré dans votre vie, dans votre cœur, qu'il a fait pour roi? Est-ce que vous vous souvenez de la joie que vous avez eue lorsqu'il a changé votre vie, lorsqu'il est venu vous sauver, lorsqu'il a tendu cette main pour vous sortir de la mort certaine? Alors chantons notre joie. Sans retenue cette fois, de tout notre corps, encore et encore, en proclamant sa présence dans nos vies, comme roi, comme Seigneur, comme Dieu. Et c'est bien de pouvoir dire à Jésus, « Ah, c'est super, les gens t'ont acclamé. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas les autres. Aujourd'hui, c'est nous qui on l'a acclamé. Alors, on va déjà un petit peu se chauffer pendant que les instruments se préparent. Dites avec moi, Hosanna Jésus, on va se lever pour dire ça. Tu es le Sauveur, tu es mon Seigneur, Hosanna. On peut le dire là, on peut le dire tous ensemble, même si c'est complètement confus. Hosanna. Voilà. Il n'y a pas les ânes, il n'y a pas les branches, il n'y a pas non plus les vêtements par terre, mais notre joie qui pousse à nous dire à Jésus, Hosanna, tu es mon libérateur et tu es là au milieu de moi, au milieu de nous. Quelle joie et nous voulons le chanter. Amen. Jésus entra dans le temple. Nous retrouvons l'évangile de Matthieu, verset 21, à partir du verset 12 et le verset 13. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'est étrange de lire ces versets juste après ce que nous venons de vivre et de chanter. Mais en fait, quand Jésus entre à Jérusalem, sa première destination n'est pas le palais du roi. Sa première destination, c'est le temple. C'est là où sont ses priorités. Et il n'y va pas d'abord pour prier, mais pour y mettre de l'ordre, pour y mettre son ordre. Il désire ardemment que sa maison soit un lieu de prière et de sainteté et non pas un lieu où l'argent et le profit y règnent. En d'autres termes, c'est son royaume qui doit prédominer dans sa maison et non le royaume du monde. Aujourd'hui, le Nouveau Testament nous dit que nous sommes sa maison. Nous, l'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et vous le connaissez, vous connaissez ces passages. Le Nouveau Testament l'atteste à nombreuses reprises et avec force. Et c'est aussi son royaume qui doit prédominer dans nos vies, et non le royaume du monde. S'il est le Messie, comme nous l'avons chanté, s'il est le roi, comme nous venons de l'acclamer, si c'est le Christ, cela doit se voir dans nos vies aussi. Et parfois, pour y arriver, Jésus doit aussi nettoyer notre vie. Il doit aussi la purifier de ce qu'il ne le glorifie pas. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Laissons le Saint-Esprit nous parler de ce qu'il peut encore faire obstacle à cette vie de sainteté, à une vie de pureté, afin d'être des hommes et des femmes consacrés à son service. Oui, laissons le roi faire le ménage dans notre vie. On a considéré à tort que ce nettoyage, c'était un temps de douleur, parce que ça nous faisait souffrir peut-être. Or, bien au contraire, ce temps de nettoyage, au risque de vous choquer, c'est aussi un temps de joie. La joie d'être libre, la joie de retrouver le sens que Jésus veut donner à notre vie. S'il a de la joie d'être ressuscité, comme Lazare, et c'est ce que nous avons vu en première partie, s'il y a de la joie à laisser aussi Jésus entrer dans notre vie pour faire de lui notre Sauveur et notre Seigneur, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a aussi et encore de la joie à être libéré de ce qui fait encore entrave à sa royauté sur nous. C'est aussi un temps de joie. C'est pourquoi, dans la suite du chapitre, on ne va pas le regarder sur l'écran, mais on peut encore lire en Matthieu, le chapitre 21, le verset 16, qu'il y a encore des proclamations Hosanna au fils de David qui résonne dans le temple quand Jésus chasse ses marchands dans le temple. Parce qu'il y a encore un temps où le salut peut être effectif dans nos vies, bien que nous soyons chrétiens, parce qu'il vient nous purifier, il vient nous nettoyer. Il vient chasser en nous ce qui ne le glorifie pas pour que ce qui le glorifie puisse briller et se développer en nous. Il désire, comme il a restauré la sainteté du temple, restaurer aussi en nous une vie de sainteté. Et cela doit nous remplir de joie. Oui, Jésus n'en a pas fini avec chacun de nous. Il désire encore nous faire manifester cette joie dans nos vies en nous libérant de ce qui nous afflige. Amen. Et là encore, comme ces enfants qui le disaient au temple, nous pouvons encore et toujours dire « Hosanna, gloire à Jésus, ma délivrance arrive, ma délivrance, elle est là. » En préparant ce culte avec Mauricio, on a eu beaucoup de plaisir, n'est-ce pas ? Nous avions cette pensée, là ça va vous paraître peut-être un peu étrange, que nous vivions les temps de la fin et que nous ne devions pas remettre à demain ce que Dieu nous montrait aujourd'hui, qu'il fallait faire les bons choix et parfois accepter de se remettre en question, même si notre vie elle est comme du papier à musique. Alors, dans cette conclusion qui sera très brève, alors pour le roi des rois, tiens-toi prêt. Dans la joie, dans la pureté, dans la liberté, Jésus est roi. Amen.